David Mathieu Charles de Gaulle, il faut que je justifie cette expression. En 1965, Jean Lacouture, vous connaissez peut-être, qui a fait un très beau mandat, qui prépare en ce moment un Madrid France, avait fait, sous de Gaulle, président de la République, un petit livre courageux, même audacieux, donc je répète, 65, et à la fin du président, il y avait ceci. De Gaulle est un personnage disjoint, ambigu, avec des cavernes impénétrables. Ça, c'est publié, ça c'est né. Mais maintenant, je vais vous donner un détail plus personnel. J'ai été, vous savez, j'étais un diplomate et j'avais parmi mes chefs un ambassadeur qui s'appelait M. Chauvel, qui avait d'abord servi Pétain pendant 2 ans et qui avait fini par rejoindre De Gaulle au début de l'année 43. Et quand j'étais son collaborateur, M. Chauvel a employé cette phrase que je lui ai demandé l'autorisation de répéter, je peux donc le faire. M. Chauvel me disait, quand je suis allé trouver De Gaulle, j'ai pensé trouver Jeanne d'Arc, j'ai trouvé Louis XI. Évidemment, quand Jeanne d'Arc et Louis XI, il y a une dissemblance, quoique Louis XI était certainement un grand roi. Voyez donc que le personnage est complexe. Comprenons bien ce que je vais faire aujourd'hui, dans cette exposition de Gaulle, je m'arrête à une certaine date, qui est le 20 janvier 1946. Vous l'avez sans doute oublié, à cette date, De Gaulle a quitté volontairement les pouvoirs qu'il avait pris pratiquement le 25 août 1944, en arrivant à Paris. Alors on va le regarder agir pendant ses 50 premières années, puisqu'il est né en 1890 et qu'en 1940 il avait donc 50 ans, et nous allons voir en particulier ce qu'il va faire évidemment à partir du fameux 18 juin 1940. Allons très vite pour regarder ce qui précède. Il était donc né en 90, ses parents étaient pas fortunés, vous savez, son père était un professeur d'enseignement libre, il avait 5 enfants, une fille et 4 garçons, c'était lui le deuxième garçon. Prépare son cire, ses parents sont ravis, vous savez, dans cette petite bonne bourgeoisie française, un garçon qui veut préparer son cire serait presque aussi bien s'il voulait préparer le séminaire. Il en passe un cire, et là, c'est intéressant de savoir que tous ceux que l'on a interrogés, que les souvenirs de ceux qui avaient été des condisciples de Gaulle, à son cire, ont tous dit la même chose. On a même été plus grand, sa promotion, elle avait 92, on l'appelait l'asperge ou le double mètre. Mais il ajoutait à la hauteur de sa taille une hauteur de comportement très flagrante, méprisant, hein. Il n'avait pas de camarades. Il était volontiers ironique, et tout le monde signale qu'il avait un goût très vif pour le théâtre. Chaque année à Saint-Cyr, il y avait une représentation théâtrale, et il demandait et il jouait un rôle, en particulier, si possible, le premier rôle. Bon, il sort Saint-Cyr, c'est juste avant la guerre, il est sous-lieutenant au 33e régiment d'infanterie, son colonel s'appelle Pétain, et le colonel le remarque en disant ça. Très brillant sujet. Il fait ce qu'on appelle une guerre brillante. Il a blessé 3 fois, il était prisonnier. Il essaie de s'échapper. Il terminera la guerre dans un camp de représailles. C'est un évadé en 25 fois. Il a été déjà au repos. Et de 1919 à 1939, c'est-à-dire entre les deux guerres, il fait une carrière intéressante, non pas garnison en garnison, essayant de s'approcher du gouvernement. Le voilà qui est en effet dès 1931, je crois, secrétaire au comité permanent de la défense nationale, qui est donc le Saint-Dominique, au ministère de la guerre. Il s'est fait envoyer à Beyrouth, où il a été, parce qu'il est sorti de l'école de guerre, il a été à l'état-major français de Beyrouth. Enfin, nous arrivons à 1939, à la zone de guerre, où il est à ce moment-là colonel. Il a déjà publié 4 bouquins, dont que personne n'a lu, on a tort, 1924, qui s'appelle La discorde chez l'ennemi, les raisons qu'il envisageait de la du désastre allemand. Un autre qui s'appelle Le signe de le pays, dont je vous parlerai à la fin de cet exposé. Un autre qui s'appelle Gérard Menetti, où en 1934, il indique que la France a besoin de divisions blindées, et on ne l'écoutera pas. Vous savez sans doute qu'elle est 15 ou 14 divisions blindées lorsque les Allemands ont attaqué en mai 40 et que la France n'avait que 3 divisions blindées. Eh bien, lui, avec des 39, dit qu'il est indispensable d'avoir des divisions blindées, donc peu importe. Puis en 38, alors il fait son livre sur la France et son armée qui le brouille avec le maréchal Pétain, nous arrivons donc à 39. 39, c'est la guerre, mais c'est la drôle de guerre, il est colonel à Metz et il s'impatiente de voir comme faire rien. Et voilà qu'en janvier 40, ce jeune colonel fait quelque chose de très inadmissible, semble-t-il, puisqu'un officier ne peut rien publier sans l'autorisation de ses supérieurs, et que lui publie, quand je dis publie, c'est pas tout à fait vrai car il ne m'a pas fait imprimer, mais c'est tiré à 80 exemplaires remontités, un mémorandum. Il a appelé ça mémorandum. Dans ce mémorandum, où il s'adresse à la fois aux responsables politiques de la guerre et aux généraux, à Gamelin, quoi. Il dit, on va se faire battre si nous n'avons pas de division blindée. Donc, ça tombe à l'eau. Il avait un appui, un seul appui politique important, Paul Reynaud, qui était le seul homme politique qui s'intéressait à un sommet de division blindée. Reynaud l'avait même attaché à son cabinet au début de la guerre. puis on ne faisait rien, Dégaux était reparti à Metz, et voilà que la guerre éclate réellement le 10 mai 1940. Et bien, de même qu'il s'est battu très courageusement en 14-18, il va prendre tous les risques, enfin, puisqu'il est à la tête de sa demi-division blindée, à deux reprises, il va foncer contre les Allemands, la première fois à Montcornet, c'est un peu comique, et le vilain canard enchaîné se moque très injustement de ce loup. De Gaulle a été très courageux, et la deuxième fois, c'est à la hauteur d'Abbeville, nous sommes le 28 mai, où il va remporter un des très rares succès, hélas, que les troupes françaises ont remporté en 40, il a fait reculer les divisions allemandes sur 40 km de profondeur, hein, ça compte, ramène 600 prisonniers, mais enfin, ça ne change pas le sort de la guerre, et voilà que l'armistice semble menaçant. Il a été nommé le 1er juin général de brigade à titre temporaire, en raison de son courage aux armées, mais Paul Reynaud, qui s'intéresse à lui et qui est maintenant président du Conseil, le fait entrer au gouvernement, ce qu'il avait désiré depuis longtemps. Au voilà sous-créateur d'État à la guerre, le 5 juin 1940, il a un bureau au sein de Rue Saint-Dominique, et il s'oppose là de la manière la plus violente à ce maréchal Pétain avec lequel il était brouillé pour des raisons personnelles en 1938, et maintenant la brouille a une toute autre raison, c'est que Pétain est acharné à l'idée d'un armistice le plus rapidement possible, et c'est là de dire dans une parenthèse que si Pétain tient tellement à l'armistice et qu'il fait de la politique intérieure depuis 10 années, depuis 1934, et que Pétain envisage ce désastre militaire, certes bien pénible, comme une occasion pour lui de réaliser sa politique intérieure. Or, de Gaulle tient qu'il y a encore possibilité de se défendre, sinon dans l'Hexagone, du moins peut-être dans l'Afrique du Nord, il y a tout de même un très grand nombre de soldats français qu'on peut faire partir en Afrique du Nord, on a commandé 1000 bombardiers aux États-Unis qui peuvent rejoindre l'Afrique du Nord. À deux reprises, de Gaulle est envoyé auprès de Churchill pour demander aux Anglais ce qu'ils peuvent mettre comme bateau à l'expédition de la France pour transporter des hommes en Afrique du Nord. C'est la deuxième fois que de Gaulle va voir Churchill, c'est le 16 juin 1940, lorsqu'il rentre à Bordeaux, le gouvernement se trouvait, dans la nuit du 16, il apprend qu'il n'y a plus de gouvernement Paul Reynaud, que c'est le maréchal Pétain qui a pris le pouvoir, égale immédiatement armistice. Alors c'est là où il apprend la guerre de germination que vous savez. Le lendemain, le 17 juin, il regagne Londres, il a 100 000 francs servis, de fonds secrets que lui a donné Paul Reynaud. Il a trouvé Churchill dans la même journée et lui demande l'autorisation de faire un certain discours que nous appellerons l'appel du 18 juin, qui est en fin de journée, en fin d'après-midi, le 18 juin. Attention. Ce que l'on appelle aujourd'hui l'appel du 18 juin n'est pas conforme à ce qu'il avait dit réellement ce jour-là. Il va faire un second appel le 22 juin. Le premier a un caractère uniquement militaire, le second a un caractère uniquement politique. Alors plus tard, de Gaulle combinera les deux affirmations pour faire ce que l'on appelle aujourd'hui l'appel du 18 juin. Alors regardons de près. Le 18 juin, de Gaulle dit seulement, moi, général de Gaulle, me trouvant en Angleterre, j'invite les officiers ou soldats français qui s'y trouvent, ou qui viendraient à s'y trouver, ils invitent à quoi ? À se mettre en rapport avec moi, car la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre. Comprenez qu'il s'agit simplement d'un général français qui dit, moi je refuse l'armistice, je fais de grouper autour de moi des Français qui constitueraient, si je puis dire, une espèce de légion étrangère française sur celle britannique pour continuer la lutte, tandis que le 22 juin, de Gaulle va reprendre la parole à lui ici, cette fois sur un plan politique. Que dit-il ? Il dit, je dénie toute légitimité à ce gouvernement qui vient de se constituer avec l'autorisation de l'Allemagne, qui n'a d'existence que par la permission de Hitler, qui ne peut pas représenter la France, et moi, général de Gaulle, avec les quelques Français libres, entre guillemets, que j'ai réunis à Gaulle, à Londres, je représente la véritable légitimité française. C'est évidemment une audace incroyable, comme il dira au début de ses mémoires de guerre, seul et démuni de tout, je me faisais l'effet de quelqu'un qui prétend traverser l'Atlantique à la nage, et c'est vrai que c'était une audace incroyable. Seul, il avait espéré des appuis, il avait espéré par exemple que l'ambassadeur de France, qui s'appelait Corbin, l'ambassadeur de France à Londres, se rallierait à son groupe des Français libres. Tant à ce soir, c'était très bien conduit, absolument indigné du comportement du maréchal, il avait démissionné, quant à donner son nom, lui, ambassadeur, à un jeune général de brigade inconnu qui constituait une sorte de pseudo-gouvernement, il ne l'avait pas fait. Je dois dire que de Gaulle s'est aussi approché d'un Français très connu qui habitait à ce moment-là à l'Angleterre, c'était André Mauroy, l'Académie française. Il avait demandé à Mauroy d'entrer dans son comité, Mauroy s'était écarté. Je crois pouvoir dire que de Mauroy craignait beaucoup une offensive aérienne sur le Londres qu'il avait préféré vivre aux États-Unis. Toujours est-il qu'effectivement, de Gaulle est seul. démuni de tout. Bah, il a mis 100 000 francs sur rien. Ça lui a donné Renault, mais surtout, il lui a dit, si vous réunissez des hommes, ne vous inquiétez pas, c'est le gouvernement britannique qui les payera. Mais enfin, c'était évident, c'était presque démentiel, ce qu'il demandait. À quoi avait-il obéi? À deux raisons, qu'il a exprimées plus tard, et je vais essayer de vous résumer. Une première raison, c'était une indignation, une seconde raison, c'était un calcul. Quelle indignation? Eh bien, suivez avec moi les empiètements en Europe d'Hitler. Oui, Hitler s'est emparé successivement de quoi? De la Tchécoslovaquie, de la Pologne, de la Norvège, du Luxembourg, des Pays-Bas et de la Belgique. Tout, vous entendez bien, tout. Les gouvernements de ce pays étaient passés à l'étranger. Le roi belge, pour des raisons personnelles, restait, mais le gouvernement belge, comme vous le savez, était à Londres. Or, il n'y avait qu'en France, qu'un gouvernement s'était constitué sur place, et ce gouvernement n'était là que par l'autorisation allemande. La reine Wilhelmine, qui était réfugiée, je crois, au Canada, avait envoyé un admirable message à ses sujets, quand elle avait appris que Hitler n'avait pas trouvé un seul Hollandais pour faire sa politique sur le sol hollandais. Vous savez sans doute qu'il avait dû s'adresser à un Autrichien qui avait failli une quarte. Alors dans un très beau message, la reine Wilhelmine avait dit, voyez-vous, Hitler n'a pas trouvé un seul Hollandais pour faire sa politique, sauf qu'une nominée, du moins, nous a été épargnée. Pas de Hollandais pour faire le travail. Cette nominée n'avait pas été épargnée aux Français, puisque Hitler avait trouvé un maréchal de France, pour faire sa politique. Si bien qu'il y aurait des décrets signés Philippe Pétain, le contre-signé dans Londres, Adolf Hitler. Donc, admiration de Gaulle en disant, c'est pas possible, on ne peut pas admettre ça. Raison de calcul. Il l'expliquera là, le 30 juin, du reste, à Maurice Schumann, qui va le rejoindre, et qui sera, vous le savez, le porte-parole de la France. Et il lui dit, actuellement, le rapport de force est en faveur de l'Allemagne, c'est évident. La France est écrasée, l'Angleterre tiendra-t-elle le coup, je l'espère, les Allemands sont les plus forts. Et j'affirme, disait de Gaulle, intelligent, j'affirme que l'année prochaine, ou plus tard, en 41, Hitler aura contre lui les Russes parce qu'il va les attaquer, c'est certain. Et il y aura les Américains parce que Roosevelt n'acceptera jamais que l'Europe soit nazie. Parce que quand le rapport des forces sera renversé, Hitler sera le plus faible et sera écrasé. Si bien que le maréchal Pétain a misé sur le mauvais cheval en misant sur la victoire hitlérienne, et nous, les Français libres, on mise sur le bon cheval, car la victoire appartiendra certainement aux Russes et aux Américains et aux Français libres réunis. Qu'est-ce qu'il va faire? Ben, vous savez, il va regarder de près son comportement, c'est pas commun. Il aura de grosses difficultés avec ses alliés, c'est-à-dire avec les Anglais et avec les Américains surtout, et il aura des difficultés que vous ignorez, qu'il me plaisait de vous dire, mais je dois vous le dire, avec la résidence française. Voyons, du côté des Anglais. Car surtout, le début, c'était dit, j'ai devant moi un auxiliaire, un soldat français, un général français qui va réunir des soldats français. Au bout de peu de temps, Churchill s'aperçoit qu'il n'a pas devant lui simplement un auxiliaire, mais un partenaire. C'est-à-dire quelqu'un qui représente les intérêts français, et qui ne veut pas que les Anglais, qui ont souvent rivalisé avec les Français, profitent de la faiblesse française pour avancer leur propre position. Lorsque, cet extrait que je vous l'avais dit tout à l'heure, lorsqu'il a été à Beyrouth pendant 2 ans, il s'est fait purcher des intrigues, moi-même, je suis allé à Beyrouth en 37, et je me rappelle très bien ce qu'on me disait, les Anglais voudraient nous chasser, nous les Français, de la Syrie et du Liban, et prendre nos positions. De Gaulle se méfie de ce que pourraient faire les Anglais. Alors il est intraitable à l'égard de Churchill. Et vous savez, il devra avaler une terrible couleuvre lorsque arrivera le drame, enfin la tragédie de Merselkébir. Je comprends très bien que les Anglais pouvaient craindre que la flotte française de Merselkébir ne tombe dans le pouvoir des Allemands. Mais quand les Anglais vont démolir un certain nombre de cuirassés français et vont tuer quelque chose comme 1300 marins français, il y a chez eux en même temps une arrière-pensée, ils étaient très inquiet de la puissance navale française et par conséquent cette puissance navale divisée les arrangeait bien. De Gaulle est obligé d'avaler cette chose très dramatique. Mais enfin, il résiste par exemple lorsque les Anglais ont décidé d'envahir la Syrie, puisque la Syrie restait avec le général Dett dans l'obédience de Vichy, il ne va pas permettre aux Anglais d'entrer seuls en Syrie, et lui qui avait pourtant déclaré jamais je ne lancerai du soldat français contre d'autres soldats français, il va bien le faire en 1941 parce qu'il ne veut pas permettre aux Anglais se précipiter seul sur la Syrie. Il aura beaucoup de difficultés avec Churchill, mais figurez-vous que Churchill finira par l'estimer pas mal. Il y a une ressemblance entre eux. Churchill est un homme, quand il a mordu sur une proie, il ne lâche pas le morceau, il y a de même. Il est agacé par De Gaulle, mais il trouve que De Gaulle lui ressemble, parce qu'il est un obstiné, c'est un tenace, et il lui porte respect. Et Churchill sera contraint de défendre, je dis bien de défendre le Gaulle devant les Américains qui ne l'aiment pas. Pourquoi donc? Ben, il y a deux raisons curieuses. Première raison, c'est ceci. Il y avait un certain nombre de Français qui se trouvaient réfugiés, qui habitaient les États-Unis, ou soit à Washington, soit à New York, et ils avaient entendu dire qu'il y avait donc un général français, inconnu, qui s'appelait général de Gaulle, qui s'annonçait non seulement comme combattant, mais comme représentant de la France, donc un général qui allait faire de la politique. Vous savez, je comprends. Les Français ne sont pas très chauds à l'idée d'un général qui fait de la politique. Vous avez parfaitement oublié, mais je dois vous rappeler que vers 1886-89, il y avait un général français qui s'appelait Boulanger, qui était ministre de la guerre, qui avait eu des arrière-pensées politiques et qui avait même un nom menacé la République. Et puis, les Français avaient tous gardé le souvenir d'un certain général en 1799, qui s'appelait Bonaparte et dont la République n'avait pas eu à solliciter. Par conséquent, il y avait des Français qui disaient « Qu'est-ce que c'est ce général de Gaulle qu'on ne connaît pas? C'est peut-être un fasciste, c'est peut-être quelqu'un qui vit dans une politique personnelle. » Roosevelt, très attentif à l'idée démocratique, s'est moqué de ce de Gaulle. Bon. Et voilà 41. 41, les Hitlériens attaquent la Russie. La Russie est donc dans le coup. Et voilà que de Gaulle va prononcer des paroles qui exaspèrent les Américains. Paroles prononcées le 4 février 1942 et que je vous lis lentement parce qu'il faut les méditer. L'apparition certaine de la Russie au premier rang des vainqueurs de demain apporte à l'Europe et au monde une garantie d'équilibre dont aucune puissance n'a autant que la France de bonnes raisons de se féliciter. Ça veut vous dire ça. Ça veut vous dire, de Gaulle se méfiait d'une victoire uniquement américaine, parce qu'il se dit, si les Américains sont seuls à vaincre, nous allons être satellites américains. Enfin, heureusement, il y a les Russes qui sont dans le coup, alors moi, si je représente la France, je peux faire une diplomatie d'équilibre. J'utiliserai les Américains contre les Russes et les Russes contre les Américains pour que la France puisse avoir une politique indépendante. Ça exaspère beaucoup les Américains d'entendre un général français dire heureusement que les Russes sont dans le coup, si bien qu'il va y avoir de nouveau une distance accrue même entre les Américains et De Gaulle, et les Américains vont tenter à deux reprises de le supprimer. Premièrement, lorsque, sans en avoir averti le général De Gaulle, c'est tout de même raide, hein, ils vont faire le 8 novembre 1942 leur débarquement en Afrique du Nord, De Gaulle sera profondément humilié du secret qu'ont gardé les Américains à son égard, et encore plus humilié du comportement des Américains à l'égard de qui? Darlan. Vous savez que Darlan était un collaborateur, s'il avait été plus collaborateur que Laval en 1941, et voilà Darlan qui se trouvait, peut-être par hasard, je n'en sais rien, qui se trouvait à agir au moment du débarquement américain, retourne sa veste et dit « Je suis du côté des envahisseurs ». Il se brouille au moins en apparence avec Pékin, et les Américains l'utilisent en disant c'est parfait, c'est un grand personnage, et puis ça nous débarrassera de De Gaulle. Heureusement, si je puis dire, enfin, par bonheur, le 24 décembre 1942, Darlan est assassiné. On a même dit que De Gaulle était responsable de cette assassinat. Je suis convaincu du contraire, mais il n'a qu'à se décider de l'expression de Darlan. Alors, que vont faire les Américains? Ils vont trouver quelqu'un d'autre pour les chenilles dans les pattes de De Gaulle. Un certain général Giraud, qui lui n'était pas un simple général de brigade, mais un général du corps d'armée, qui avait été fait prisonnier, qui s'était très courageusement évadé, qui était rentré en zone non occupée, que je n'aurais jamais appelé la zone libre. La peine rentrée en zone non occupée, ce général Giraud avait fait une déclaration publique en disant « Je suis de l'obédience du maréchal Pétain, j'appuie la politique du maréchal et celle du président là-bas. » C'est allé très loin. Et bien les Américains s'en moquent, si je puis dire, et ils disent « Si on peut avoir Giraud, il sera beaucoup plus... » maléable, beaucoup plus hostile que De Gaulle, aurait essayé de mettre Giraud à la place de De Gaulle. Alors ça, c'est assez amusant de voir le duel qui va se produire. De Gaulle ne veut pas céder la place, il acceptera sous la pression américaine que Giraud vienne le voir à Alger, mais la lutte entre eux n'est pas égale. Ce monsieur Chauvel, dont je l'ai parlé tout à l'heure, mon ambassadeur, qui se trouvait là, m'a raconté que rien dans l'apparence des deux personnages, De Gaulle d'un côté et Giraud de l'autre, on sentait que la partie n'était pas égale en ce sens que De Gaulle avait un grand prestige personnel, c'était un homme très grand, je savais qu'il était à ce moment-là très mince, il se présentait très bien. Tandis que le père Giraud, me disait M. Chauvet, n'avait aucune apparence. Il était un peu ventru, il serrait bien évidemment son ceinturon, il se balançait d'un pied sur l'autre comme un gardien de square, enfin il n'avait pas d'allure. Et deuxièmement, me disait M. Chauvet, le bon observateur, avec De Gaulle, vous aviez un joueur de poker, le l'autre c'est un joueur de belote, il allait certainement se faire bouffer. Évidemment, c'est ce qui va arriver. De Gaulle va l'emporter sur Giraud qui ne fera plus rien, les Américains sont furieux, et je dois vous citer un texte trop peu comique d'avril 1943, au moment où De Gaulle est en train de l'emporter sur Giraud, et dans une lettre personnelle de Roosevelt à Churchill, nous sommes en avril 43, ils sont convaincus que la guerre est gagnée, ils se disent l'un à l'autre qu'est-ce qu'on va faire, avec quel partage de l'Europe va-t-on faire avec les Russes, et puis un petit peu de Clinton, de Churchill et de Gaulle. Qu'est-ce qu'on en fait? Gouverneur de Madagascar. Vous voyez, à quel point Roosevelt voulait écarter de Gaulle. Et bien, de Gaulle va jouer la résistance pour expliquer aux Américains de découvrir avec moi, car je suis le seul vrai représentant de la résistance française. Voilà du point de vue des alliés. Maintenant, ce que j'ai voulu dire du point de vue de la résistance est plus connu et est assez peu. J'ai été 2 ans sous l'occupation jusqu'au 15 juillet 1942. Je ne sais pas grand-chose, enfin, c'est des trucs, quoi. Et nous avions l'impression assez naïve que nous étions observés de loin, de Londres, puis d'Alger, par un général de Gaulle plein de bienveillance et de tendresse. C'est pas vrai. De Gaulle se méfiait horriblement de la résistance. Il aurait voulu que les gens de la résistance se bornassent, voyez comme je parle bien, se bornassent à exécuter les missions qu'il leur donnait. Par exemple, des missions que qu'est-ce que font les Allemands, donnez-nous des renseignements par radio sur les mouvements de troupes allemandes, et faites les opérations militaires que je vous prescris. Faites sauter tel train, faites du rail d'état, enfin sauter tel pont, ça. Mais les résistants, presque tous, pensaient aussi à l'avenir. Une fois que la France sera libérée, quelle sera la politique du général? Eh bien, le général de Gaulle ne permettait à personne de s'occuper des problèmes politiques. Et voici un texte que j'ai extrait de ce fameux mémorandum, vous vous rappelez, hein, janvier 40, ce mémorandum, qui était d'une apparence militaire, mais dans lequel il y avait une toute petite phrase que voici, qui était d'ordre politique. Je la cite, cette phrase, de janvier 40. La chose politique, sociale et morale, dont le présent conflit est issu, revêt une telle profondeur et présente un tel caractère qu'elle aboutira fatalement à un bouleversement complet dans la situation des peuples et dans la structure des États. Vous avez entendu? Et dans la structure des États. De Gaulle prévoit donc qu'au moment de la libération, il y aura de grandes transformations à faire. Il se réserve ces transformations. Il n'entend pas que personne d'autre que lui se décide, prononce, sur l'organisation future de la France. En 72 ou 72, 74, je ne me rappelle plus, un résistant qui était resté longtemps muet, qui s'appelle Henri Franet, a publié un beau livre extrêmement intéressant qui s'appelle La nuit sidira. Franet est un des résistants centristes, si vous voulez. C'est un ami de Bigot, qui était un catholique, je crois, en fait, c'est un homme très modéré, vous savez. Rien du tout communiste. 2 fois, il était allé à Londres, et 2 fois, il avait tenté avec De Gaulle de parler des problèmes politiques. Et 2 fois, De Gaulle lui avait coupé la parole. Et Franet raconte que la 2e fois, il s'était un peu acharné, il avait dit, mais moi, général, tout de même, enfin, qu'est-ce qu'on va faire politiquement? Et De Gaulle avait été très rude, et lui avait dit, écoutez, monsieur Franet, vous direz votre programme, je dirai le mien, la France choisira entre vous et moi. Bon, il avait compris qu'il ne fallait pas en parler. Ça, c'est au moment où la résistance était encore composée de non-communistes. Elle sait bien que les communistes sont entrés en masse dans la résistance lorsque l'URSS a été attaquée, c'est-à-dire en juin 1941. Je dois dire, pour être loyal, qu'un certain nombre de communistes individuels étaient déjà dans la résistance, mais l'appareil du parti, fidèle à la politique du pacte germano-soviétique, soutenait la politique d'Hitler, pratiquement. Alors, réfléchissez à ceci, tout à coup, en juin 1941, entre en masse dans la résistance française le Parti communiste français. C'est une force, hein. Environ 25% des électeurs. Les communistes sont des gens qui ont un programme, qui sont très disciplinés, qui sont courageux. Et De Gaulle est effrayé à l'idée pensée que la résistance va lui échapper et va tout passer entre les mains des communistes. Alors qu'est-ce qu'il fait? 2 choses. Premièrement, De Gaulle jusqu'alors n'avait fait des discours que militaires et nous voilà qu'il va faire des discours politiques. Écoutez bien ce qu'il dit. Le 1er avril 1942, c'est une révolution. La plus grande révolution de son histoire que la France est en train d'accomplir, la France trahie par ses élites et par ses privilégiés. Quand on a son gauchiste, si je puis dire. 22 juin 42. Tandis que le peuple français s'assemble pour la victoire, il signe en même temps pour sa révolution. Et va beaucoup plus loin. Sa présence sont des phrases générales. Et écoutez, donc, dans le détail. 14 mars 1943. Ce que nous voulons, c'est faire acquérir par la nation la propriété des principales sources de richesse, ben, ça s'appelle collectivisme, ça. Et là, plus loin. Et assurer à la nation le contrôle du crédit, vous entendez, le contrôle des banques, hein, afin que son activité ne soit plus à la merci de monopoles financiers. Qu'est-ce qu'ils veulent faire en faisant ça? Écoutez-leur sur le vieux communiste. Le communiste annonce, comme ils disent, des lendemains qui chantent, et De Gaulle veut faire savoir à ses partisans que lui aussi sera de profonde transformation sociale. 1. Et 2, il a une idée fort intelligente et que voici. Je vais choisir quelqu'un qui n'est pas mal vu des communistes, qui s'appelait Jean Moulin. Jean Moulin avait été directeur de cabinet de Pierre Cotte, comme victorien, mais Pierre Cotte en France avait très mauvaise réputation à droite parce qu'il avait été ministre de l'air, ministre de l'aviation, au moment du Front Populaire. la droite l'accusait d'avoir saboté, c'était quand même scandale, d'avoir saboté l'aviation française au bénéfice des républicains espagnols, ce qui est complètement idiot. Enfin, Jean Moulin était quand même d'une certaine couleur gauche et même extrême gauche. Alors, comme Jean Moulin avait fini de se mettre à la disposition du général de Gaulle l'a choisi en disant, voilà l'homme qu'il faut pour obtenir que les communistes ne reconnaissent ni de Gaulle comme leur seul chef. Jean Moulin est un homme qui a le sens de l'État, il avait été préfet à Chartres, et de Gaulle lui fait confiance. Alors voilà Jean Moulin qui parachuté en France, qui au risque de sa vie va du nord au sud, voir tous les groupes de résistance. Quelle est résistance de droite, ça vous y avait des royalistes résistants. Il y avait aussi, surtout, ce qui intéressait de Gaulle, les résistants communistes. Le 27 mai, très important, hein, le 27 mai 1943, Jean Moulin va obtenir ce droit-là de Gaulle à lui envoyer en France, c'est-à-dire une signature générale, collective, tout le monde, y compris les communistes, qui disent le seul en qui nous avons confiance pour conduire la France, c'est de Gaulle. Comme disait ce monsieur Chauvel, j'ai déjà prononcé deux fois le nom, à l'égard de la résistance, de Gaulle en fit état, plus qu'il n'en fit usage. Il va en faire état à l'égard des Américains, il dit, mais vous froncez le sourcil, vous voulez pas de moi, regardez le document. J'ai un document qui établit que tous les résistants français, qu'ils soient de droite ou de gauche, disent, c'est le général de Gaulle qui est leur chef. Ça va de servir beaucoup à l'égard des Américains. Mais attention à la suite. Et là, nous entendons quelque chose de très dramatique sur lequel je ne sais pas la vérité, alors je serai prudent. Je dirai les éléments. C'est le 27 mai, vous l'avez entendu, 27 mai 43, que Jean Moulin obtient ce papier ici nécessaire. Il n'a plus un mois à vivre. Car avant un mois, il aura disparu, il aura été livré aux Allemands par un homme qui lui a suivi des consciences, qui s'appelait Hartz. Bien entendu, les communistes ont répandu le bruit que de Gaulle avait fait détruire, avait fait tuer, avait fait livrer Jean Moulin aux hommes. Et je ne veux pas le croire. Pas plus si j'imagine que de Gaulle était responsable de l'assassinat de Darlan, pas plus j'imagine de Gaulle donnant à ses services l'ordre de livrer aux Allemands Jean Moulin. En revanche, ce que je peux vous dire, et c'est pas mon avis qui peut-être une certitude, c'est que le DCRA, Bureau Central de Renseignement et d'Action, c'est-à-dire les Barbouzes, quoi, c'est-à-dire les services secrets de Gaulle, détestait Jean Moulin. Je connais le chef des Barbouzes, il s'appelait le colonel Passy, il s'appelait en réalité De Wavrin. De Wavrin avait le droit d'avoir ses opinions politiques, il avait des opinions de droite, des opinions conservatrices. Et De Wavrin considérait avec effroi ce que faisait Jean Moulin, qui avait créé le CNR, Comité National de la Résistance, où les communistes avaient évidemment une place considérable. Alors je peux vous affirmer, ça avec une grande certitude, que du côté des DCRA, on n'aimait pas Jean Moulin. Et je veux aussi vous dire que celui qui s'appelait Hardy, et celui du DCRA, est certainement un de ceux qui ont livré Jean Moulin aux Allemands. Je pose donc la question, je dois vous dire, que dans un livre paru en 80, d'Henri Calès, qui s'appelle Jean Moulin, il a simplement, concernant ce que je vous dis maintenant, une petite note en bas de page, disant ceci, quant à l'arrestation de Jean Moulin, elle pose une des ennemies d'une des plus douloureuses, une des ennemies les plus douloureuses de l'histoire de la résistance. Bon, puis Jean Moulin, qui est torturé par les Allemands, il va mourir entre leurs mains. Et De Gaulle est exaspéré contre le CNR, parce que Jean Moulin, c'est son homme, que lui, je l'avais nommé, tandis que le CNR va décider, sans consulter le général, de donner le nouveau président, qui sera son nom Bidault, vous savez, Georges Bidault, toujours vivant aujourd'hui, et qui, lui, n'était certes pas communiste, il était du centre-gauche à peu près. Mais De Gaulle ne lui pardonne pas, à Bidault, n'être pas nommé par lui, mais a été nommé par les hommes de la résistance. Et vous ne savez peut-être pas que De Gaulle va immédiatement parachuter en France deux contrôleurs, qui sont au-dessus de Bidault, qui doivent coiffer Bidault. L'un civil, dont vous avez oublié le nom, qui s'appelle Alexandre Parouzi, et un autre dont le nom est aujourd'hui encore absolument actualisé, c'est Chabon-Delmas. Alexandre Parouzi est là du point de vue civil, et M. Chabon-Delmas est là du point de vue militaire. Nous arrivons à la libération de Paris, là il y a là-dessus des légendes, encore aujourd'hui vivaces, et que je suis bien obligé de démolir. On a prétendu, j'étais à ce moment-là en Suisse, hein, et la radio suisse, et je me suis dit, Paris s'est libéré, mais non, Paris s'est pas libéré. Les Allemands avaient décidé d'évacuer le nord de la France lorsque leur verrou d'Avranches avait cédé. Vous savez ce qui s'était passé, il y avait un débarquement américain le 6 juin 1944, les Allemands avaient très fortement résisté, à Eisenhower piétiné et s'agacé, après il a mis du paquet, il est arrivé à faire sauter ce verrou d'Avranches. Alors à ce moment-là, il était dit, ben, il n'y a qu'à faire un repli stratégique considérable, on va se replier sur les Ardennes et peut-être même au-delà du Rhin, mais nous allons évacuer la France du Nord. Il comptait Paris. Alors pour l'évacuation de Paris, c'était le général von Kolpitz qui dirigeait les forces allemandes à Paris. Von Kolpitz a décidé de trahir, de trahir Hitler. Et puis on lui avait dit, vous allez faire évacuer cette équipe de nuit pour que les Français ne se rendent pas compte qu'on évacue Paris. Mais je vous demande, avant d'équiper Paris, de faire sauter toutes les unités de la banlieue, de vous sauter jusqu'où vous voudrez, les ponts, la tour Eiffel, Notre-Dame, enfin, je veux que Paris brûle. Bon. Colpit est décidé de ne pas le faire, parce qu'il est convaincu que les Allemands sont tordus, et il prend contact, en secret, avec les Allemands, grâce au ministre ou au consul de Suède, et il leur fait savoir ceci. Je vais faire évacuer, sans ennui, et quant à moi, je ne partirai pas, je ne me remets entre vos mains, je ne ferai rien comme destruction à Paris, à condition que vous m'acceptiez, que vous soyez prévenu à nommer là. Francis et les Américains sont contents. À Paris, en du Nord, il y a un très petit nombre de gens, en particulier la police, qui savent que les Allemands s'en vont. Et brusquement, le 18 août 1944, des affiches de mobilisation sont affichées dans Paris, appelées à l'insurrection. Il y avait environ quoi? Il y avait environ, foutant, 3 millions de Parisiens à ce moment-là, dans Paris. Combien vont descendre dans la rue? Mettons 4 000. 4 000 sur 3 millions. Ceux qui vont descendre dans la rue, ils organisent des petites barricades, ils vont se faire tuer, il y aura quelque chose de 2500 familles tuées. Ces 3 000 tués se font tuer en vain. Et sans doute pas. Et quand même, ils n'auraient pas bougé, c'est ce qui était pareil, étant donné que les Allemands s'en allaient. De Gaulle le savait très bien, mais il avait demandé à Eisenhower la permission d'envoyer des soldats français sur les armées américaines, certes, pour être les premiers à entrer dans Paris. C'est la fameuse colonne Leclerc. Ce qui permettra aux Parisiens de s'imaginer qu'ils sont délivrés par des troupes françaises, alors qu'ils sont délivrés par les Américains. Et les troupes françaises de Leclerc ne sont qu'une toute petite, une infime partie de ces envahisseurs et de ces libérateurs américains. La police se vantera d'avoir été extrêmement courageuse, puisqu'elle arborera, dès le 19, je crois, le drapeau français au-dessus de la préfecture de police. On dira, mais mon Dieu, ces policiers sont vraiment courageux. Mais non, parce que la police sait ce qui se passe, la police sait que les Allemands sont en train d'évacuer. Mais cette police, elle est terriblement compromise avec la collaboration. Les policiers français qui obéissaient à la fois à Pétain et à Hitler avaient fait des arrestations massives de juifs et de résistants. La prison de la France, qui était prévue pour 1000 prisonniers, en avait 3000. Alors la police, pour se faire obéir, avait besoin, comment dirais-je, de se blanchir. Alors c'est la police qui va inaugurer le drapeau français, le premier drapeau français qui va flotter sur Paris, alors que ce n'est aucun péril pour elle, mais c'est pour se faire admettre de la résistance. Quand De Gaulle va arriver à Paris, nous sommes le 25 juin, oui, la fois le 25 août, la première chose qu'il fait, c'est de passer, pardonnez-moi l'expression, une véritable engueulade à Leclerc qui avait signé la capitulation avec son petit. Or, Leclerc avait accepté qu'on bat ses documents de capitulation une autre signature que la seule figura. La signature du colonel Raoul Tanguy, R.O.L. Prémion Tanguy, qui était le chef du communiste en révolte à Paris. Et De Gaulle dira à Leclerc, ne vous rendez pas compte de l'erreur politique énorme que vous venez de commettre en admettant qu'en revenant dans du parti communiste, c'est une capitulation. Pour Leclerc, on a fait des séminaires en disant que je suis raison de ce que je faisais. Et que fait De Gaulle en arrivant à Paris? Un, il va donc à Gare Montparnasse pour confirmer la capitulation. Il va ensuite rue Saint-Denis, commissaire de la guerre, qu'il a visité le 12 juin lorsque le gouvernement s'est appuyé sur Bordeaux, pour dire je suis maintenant chef de l'armée. Il va voir ensuite la préfecture de police, comme s'il était d'abord préoccupé d'avoir entre les mains les deux instruments de contrainte, c'est-à-dire l'armée et la police. Et enfin, en fin de journée, il va aller à l'hôtel de ville où le CNR, Comité National de la Résistance, est réuni depuis 2 heures, l'attendant avec une espèce de ferveur. Ces gens de la résistance depuis des années sous les îles de Gaulle, tout à coup ils vont se trouver en présence, vite, d'un char immense, de ces hommes qu'ils ont tant acclamé et tant vénéré. Or, le général de Gaulle, il ne fera qu'une apparition très brève dans les îles de ville, assez froide. Deux personnes qui étaient là et qui ne s'aiment pas m'ont dit les mêmes choses. Il y avait Bigot d'une part, il y avait François Mitterrand d'autre part, qui était là aussi, et qui dit le général de Gaulle a été très désagréable avec nous, il est resté qu'une vingtaine de minutes. Nous faisions un grand cercle enthousiaste autour de lui, et là, au centre de ce cercle, il remet la tête de droite et de gauche comme pour se vanter de propos importants. Les gens de la résistance sont extrêmement tristes, mais ils pensent que c'est le général qui est fatigué, et le surlendemain, De Gaulle va réunir le CNR pour leur dire des choses amères. Qu'est-ce qu'il leur dit donc, De Gaulle, quand il réunit le CNR dans son bureau de la région de Munich, c'est le 28 août, et il leur dit, vous êtes tous, vous l'avez remarqué, hein, au passé, vous êtes tous le CNR. Il n'y a plus de comité national de la résistance, et plus de résistance, je suis là. Alors, vous, membre de la résistance, je vais vous nommer dans l'assemblée consultative. Il m'avait réuni comme Bonaparte. Une assemblée consultative, c'était purement signitif, qui n'avait aucun pouvoir réel, et des gens s'aperçoivent tout d'un coup qu'ils sont mis totalement à l'écart. Et donc, il y a une phrase d'une dureté incroyable dans ses mémoires à ce propos, il nous dit, après avoir recueilli les observations résignées ou véhémente, je déclarais que l'audience était terminée. C'est ce que les dictionnaires, vous savez, sont matraqués. À l'impression qu'ils se sont battus, ils n'ont pas rien, certes, ils ont contribué à la libération de Paris, mais Vol de Gaulle veut les tenir à distance. Rendez-vous bien compte de ceci. Le général de Gaulle, pendant 14 mois, va être le monarque absolu de la France. Or, en France, pays démocratique, lorsque quelqu'un est le chef de l'État, il veut être affiné par suffrage universel. Je veux s'y contenter de cette espèce de sacre qu'il a obtenu de l'acclamation des Parisiens, lorsque le 26, il avait décidé, vous le savez sans doute, depuis l'Arc de Triomphe jusqu'à Notre-Dame de Paris, au milieu d'ovations, mais enfin ça, c'est des ovations de Parisiens, lesquels Parisiens, au mois d'avril 1944, avaient acclamé le maréchal Pétain que les Allemands avaient amené là. C'est donc pas autre chose qu'un sacre apparent. Un véritable sacre, c'est là, c'est le suffrage universel. Et bien, De Gaulle va attendre 14 mois pour consulter le suffrage universel. Au tome 2, je crois, au début du tome 2 de ses mémoires, De Gaulle va dire l'espèce de monarchie que j'avais assimilée. Non, c'est pas une espèce, c'est une monarchie absolue, car pendant 14 mois, c'est sa seule autorité qui décide de tout, étant donné que la commission consultative n'a pas de pouvoir réel. Alors, il remet un peu ce qu'il va faire pendant ces 14 mois de dictature, de toute puissance. Regardons du point de vue social, du point de vue international et du point de vue colonial. Le point de vue social. De Gaulle a déjà lancé une très grande, la plus grande révolution. Et il fera des choses, c'est parfaitement vrai, il fera des choses. Il va faire des nationalisations. C'est lui qui va obtenir la nationalisation des minières, la nationalisation des gaz et l'électricité. C'est lui qui va nationaliser un certain nombre de banques et banques de dépôt. Pas les banques d'affaires, hein, pas la Paris-Basse, on ne touche pas, les banques de dépôt, comme le Fonds Lyonnais. Il va refondre la législation des fermages et des métayages dans un sens très favorable aux paysans. Il va également imposer aux entreprises les comités d'entreprise, ce sont les ouvriers qui maintenant vont se réunir obligatoirement et contrôler un peu les cadences de travail et surtout les questions sanitaires sans avoir le droit de contrôler la gestion visée. Mais en fait, tout de même, une participation, la première participation ouvrière aux entreprises. Le général se vantera beaucoup d'être celui qui avait donné le suffrage aux femmes. C'est vrai. C'est avec De Gaulle que les femmes françaises ont pour la première fois le droit de voter. Et si on va vous dire entre parenthèses, le général sait très bien ce qu'il fait en donnant, en sa croix, savoir ce qu'il fait en donnant le pouvoir politique aux femmes, il se persuade un peu à tort que les femmes sont des éléments conservateurs, qu'elles voteront à droite et que par conséquent il n'y aura pas de difficulté avec elles. Il a donc fait socialement des choses. Mais enfin, entre ces quelques réformes intéressantes qu'il a faites, et l'énorme révolution qu'il avait annoncée, vous reconnaîtrez qu'il y a une certaine distance. Voilà du point de vue social. Du point de vue international, je vous ai dit que De Gaulle se félicitait en 42 de ce que les Russes ont participé considérablement à la victoire. Et je vous ai dit, son arrière-pensée à savoir politique d'équilibre entre les Américains et les Russes. Alors il va se précipiter. Dès la fin de l'année 1944, en Russie, pour voir s'allier. Son arrière-pensée est la suivante. Il sait très bien ce qui s'était produit après la guerre 14-18. Vous vous rappelez que les Allemands étaient dans un état épouvantable, que les ministres avaient mis en Allemagne. Mais il ne faut pas oublier que si l'Allemagne fait un redressement économique considérable et bientôt un redressement militaire, c'est grâce à des capitaux américains. Les Américains considéraient qu'on ne peut pas laisser cette Allemagne comme ça inutilisable. Ils avaient donc engagé de l'argent, ils en avaient pas mal gagné. Et De Gaulle se dit, ça, je ne veux pas permettre que ça recommence. Je ne veux pas que les Américains restaurent une puissance économique allemande. Or, ce sont les deux nations qui ont vraiment suivi dans leur chair l'occupation allemande. Pas les Anglais, les Allemands n'ont jamais débarqué. Pas les Américains, certainement pas. Oui, la France et la Russie. La France et la Russie ont été des victimes dans leur chair l'occupation allemande. Alors, De Gaulle voudrait jouer la politique suivante auprès des Stalin, il va lui dire, écoutez, nous avons tous les deux le même intérêt à ce que l'Allemagne reste une puissance écrasée, le reconstitue par un Reich, que ce soit un embryon, enfin, un groupe de Länder, comme vous savez, la France de l'Allemagne de Westphalie. Mais Staline est un homme positif, hein, un homme donnant. Et il y a De Gaulle, je suis d'accord, à condition que, vous, De Gaulle, vous reconnaissiez comme seul pouvoir légitime en Pologne ce gouvernement communiste que Staline avait établi à Lublin. Or, il y avait, De Gaulle les connaissait physiquement, le gouvernement provisoire de Pologne qui était réfugié à Londres. De Gaulle ne veut pas trahir ses amis de Londres, et surtout il n'a pas envie de constituer en Pologne un pseudo-gouvernement ultra et uniquement communiste qui sera l'oubli. Alors il résiste, il dit à Staline, moi je ne peux pas, si bien que le voyage que De Gaulle a fait au Kremlin, c'est un coup d'épée dans l'eau. Quand il revient, il a senti qu'il a raté ce côté-là. Je lui ai tellement voulu que la France ne soit pas un satellite américain, et qui avait même été d'une certaine dureté, je dois dire qu'il avait été exaspéré du fait qu'il n'ait pas été invité, lui, représentant la France, ni à Yalta, qui est en janvier 45, ni à Potsdam, qui est en juillet 45, et qu'il avait considéré que les grands considéraient, estimaient la France comme une puissance secondaire, et qu'il avait même été assez méchant à l'égard de ce malheureux Roosevelt, qui, vous savez bien, était très malade, va bientôt mourir, et si le retour de Yalta s'était arrêté à Alger, en priant le général de bien venir le voir de Paris à Alger, le général avait répondu avec une hauteur que je trouve un peu pénible, si le président Roosevelt venait me voir, il n'a qu'à se déplacer et venir à Paris. Roosevelt n'avait pas donné ça, il avait dit en souriant de Gaulle se conduit comme une prima donna, mais néanmoins, il voulait bien obligé de capituler. Il va aller, comme on dit, à Canossa, et deux fois, en 45, puis en 45, il va aller la main tendue auprès des Américains, car la France ne pouvait dire financièrement et économiquement qu'avec l'appui américain. Il a donc raté le malheureux de ce qu'il avait tenté de faire, à savoir d'éviter que la France soit un satellite américain. Et se résume à cette coupure de l'Europe en deux, l'Europe de l'Est, satellite russe, et l'Europe de l'Ouest, belge et français, satellite américain. Colonialement. Vous savez bien qu'à 14 ans, l'Église finira par se détruire à cause des affaires coloniales. Il y a l'affaire d'Indochine d'abord, qui se terminera en 54 par Dien Bien Phu et le partage d'Indochine, et surtout, il y aura la terrible histoire d'Algérie. Mais je dois vous dire, sans joie, que De Gaulle est responsable des deux événements. Voyons, prenons l'Algérie d'abord. Le 8 mai 45, se produit à Sétif, dans le Constantinois, une législation très grave. Organisée par les anciens officiers algériens, qui avait servi dans les troupes françaises et qui avait connu là une véritable fraternité. Vous savez, les officiers français traitaient les Algériens comme des camarades. Mais lorsque les officiers algériens démobilisés reviennent chez eux, ils s'aperçoivent que rien n'a changé à la condition de leur part. Et que ces parents, qui sont presque tous des paysans, sont asservis comme ils l'ont toujours été. Alors ce 8 mai 1945 à Sétif se produit la première manifestation nationaliste algérienne où on verra dans les récits ce drapeau. C'est aujourd'hui le drapeau de l'Algérie, le drapeau vert et blanc, avec des anciens officiers qui disent qu'on s'est battu pour la libération des peuples, mais un peuple algérien a délivré. Dans la nuit du 8 au 9 mai se produisent des horreurs. Il y a des paysans qui étaient au service des colons, et que les colons prenaient pour les gens à l'eau courbe qui étaient tout à fait asservis. Voilà un certain nombre de ces paysans qui se révoltent contre les colons et qui conduisent d'une manière, je veux dire, affreuse. Puisque dans la nuit du 8 au 9 mai, il y a 109 assassinats d'Européens par des Algériens. 109. Et je veux dire, parce qu'il faut tout dire, que ces révoltes en Afrique du Nord sont pas mal affreuses. Vous savez, pardonnez-moi le détail, mais enfin, les hommes, leur couple les parties sexuelles en enfonce dans la bouche, et les femmes, elles les ventres après les avoir violées. Affreux, hein. Nuit du 8 au 9. Répression. Alors, on envoie contre ces malheureux Algériens, on envoie d'abord la Légion étrangère, ce sont des robots, on envoie des Sénégalais qui ne sont pas des Arabes, et le chef de la répression, Azoura, 800 morts, c'est déjà pas mal, 800 contre 103, en réalité les chiffres bien supérieurs. Mais ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que dans les jours qui ont suivi les 9 mai, les commandos de colons vont s'organiser pour les représailles. Ça durera 45 jours de représailles horribles. Les SLM, plus tard, hein, ça a été révolté à Jérusalem, ils ont tué 50 000 hommes, c'est faux. Mais évidemment, les colons vont faire des choses affreuses, vont se jeter sur les douars, vont assassiner tout le monde, femmes, enfants et gosses, on va jeter des cadavres, quelquefois encore un peu vivants, dans des trous avec de la chaux. Résultat, estimation les plus faibles, 20 000. Alors l'armée aurait tué 800 hommes, les colons auraient tué 20 000 personnes. Je me rappelle très bien, j'étais sous l'occupation en 42 ans, quand on voyait qu'il y avait une affiche allemande qui disait « Vous avez tué un soldat allemand, on va en tuer 10 otages français ». Mais là, en Algérie, il ne s'agit pas de 10 contre 1, 20 contre 1, 800 contre 1, il y a 200 contre 1. Il y a 109 morts européens, il y aura comme 22, 23 000 Algériens écrasés. De Gaulle le sait, et il est tout puissant. Nous sommes le 8 mai 45, ben il ne fera rien. Il avait accordé 70 000 droit de vote à la campagne, il a le droit de vote à 70 000 Algériens triés sur le volet qui étaient au service de la France. Et ce qui va se produire en 54, c'est-à-dire l'explosion que du Sable qui aboutira en 62 grâce à De Gaulle. À l'indépendance algérienne, il aurait certainement pu, s'il avait voulu, faire des réformes en Algérie qui nous eût épargné à la France l'épouvantable réveil que vous savez. C'est ce qu'il avait pu pour empêcher les Alliés de déclarer la Libye indépendante. La Libye, vous savez, c'était autrefois une possession italienne, la Chianarique, enfin, la Tripolitaine. Et je vous disais, mais si vous créez un État indépendant aux frontières de la Tunisie d'une part et de l'Algérie d'autre part, ça va être la contagion de l'indépendance. Il refusait. 1. L'Indochine. Profitant de la faiblesse du gouvernement français, les Japonais avaient envahi le nord d'Indochine. Alors s'était constitué contre eux une résistance à la fois nationale et politique, dirigée par un nommé Okimi. Okimi est justement un intelligent qui était en effet marxiste, mais qui en même temps était très anti-japonais et aussi hostile à la présence française, mais qui avait fait savoir au négociateur français qui s'appelait Saint-Denis la chose suivante. Général de Gaulle parlait maintenant d'une union, qui ne serait plus un colonie française, qui serait l'union française, une espèce de Commonwealth. Je suis décidé, disait Okimi, pendant un certain nombre d'années, à rester dans l'Union française parce que nous avons besoin de la France culturellement et économiquement. Il y avait toutes les chances à ce moment-là de s'entendre. C'était l'idée de Saint-Denis, dégager la française, l'idée de Leclerc, que le général de Gaulle va envoyer en Indochine, dont nous avons les documents aujourd'hui, et Leclerc disait, notre seule chance, c'est de travailler avec Okimi. Que fait de Gaulle? À la suite d'une loi du 15 août 1945, Okimi qui dit, nous pouvons nous entendre encore longuement avec les Français à condition qu'on rétablisse l'administration coloniale. Là, vous savez que de Gaulle va envoyer un corps expéditionnaire avec des chars pour une reconquête militaire d'Indochine. Il va sabrer chez Leclerc qui trouve trop mieux, ça n'est pas la place d'un extraordinaire moine, un capucin, qui est devenu amiral, qui s'appelait Thierry d'Argentlieu, et qui lui était favorable aux méthodes de force, et vous savez tendu, c'est l'amiral d'Argentlieu qui avait décidé en 1946 du bombardement de Haïfong, il y avait une minute, il y a des stades français va tirer sur Haïfong, tuer des milliers de gens. C'est là que va commencer la révolte indochinoise qui tournera si mal. Donc, je suis obligé de vous dire, avec tristesse, que le général de Gaulle est pour une part responsable de ce qui va nous arriver à nous Français en Algérie et en Indochine. Il se décide quand même, il le faut bien, la continuité du corps électoral, nous sommes le 21 octobre 1945, qui s'est confirmé avec son prestige, le nouveau parti qui s'était constitué, qui s'appelait MRP, avec Bidon, Mouvement Républicain Populaire, et qui s'inscrivait le parti de la fidélité, pour obtenir ce qu'on appelle toujours électoralement un raz-de-marée, et que le général de Gaulle aura une chambre à sa disposition. Eh bien, je ne sais pas si vous vous rappelez les chiffres, ça c'est terrible, hein. La précédente chambre, c'est la chambre du Front Populaire, 36, 73 communistes, et bien dans la chambre de 45, les communistes, 160. Et comme les MRP ne sont que 152, et que les socialistes sont 142, si on admet que les socialistes sont des marxistes, enfin plus ou moins comme les communistes, c'est donc une majorité marxiste que le général trouve devant lui. Il est exaspéré, il est écœuré, il a décidé tout de suite, je ne continuerai pas dans ces conditions, il ne veut pas immédiatement démissionner, mais il en a pris la décision, et c'est ce 20 janvier 46 que le général de Gaulle enverra un message aux Français disant, j'ai remis la France sur rail, je sais que ce n'était pas vrai, on n'a plus besoin de moi, je me retire. En fait, il n'y a pas du tout l'intention de se retirer, nous savons aujourd'hui par les confidentiels, par exemple, de Claude Mauriac, qui était le fils de François Mauriac, qui devait être très partie du général et qui a écrit en 71 un livre que je vous recommande, qui est extrêmement important, qui s'appelle Un autre de Gaulle. Nous avons que quand de Gaulle se retire du pouvoir, il ne va même pas dans sa propriété qu'il avait depuis 37 de colonel des deux églises, il va tout près de Paris à Marie, persuadé que toute la France va se mobiliser en lui envoyant télégramme sur télégramme pour lui demander mon général revenez. Il reçoit à peu près rien. Dans l'hiver 45-46, les Français sont très malheureux, les rations alimentaires sont plus faibles que celles de l'occupation, on n'a pas de charbon, les Français crèvent, ils m'ont dit que de Gaulle soit parti, c'est pas bien grave. Alors c'est là que de Gaulle va prononcer cette phrase qui est célèbre, qui est historique, les Français sont des veaux. Il croyait qu'il était parti pour une quinzaine de jours, et il attendra, vous le savez sans doute, 12 ans, avant de reprendre le pouvoir. Arrivons maintenant à ce que j'aurais fini de vous esquisser, le portrait intime, la personnalité de ce général. Il y a une phrase de lui intéressante qu'il avait prononcée devant un journaliste qui me l'a rapporté. Dans la situation où je suis, je ne peux pas être moi-même. Tiens. Et dans une mémoire, il aura ceci aussi. Je devais perpétuellement m'élever au-dessus de moi par une contrainte incessante. Ah. Ça signifie qu'il y a deux réalités. Il y a le personnage de Gaulle, chef d'État de Gaulle, et sous le personnage de Gaulle, il y a un Charles de Gaulle que je voudrais essayer d'entre-deviner. Dans le film de l'épée, qu'il avait publié en 1932, et c'était des conférences qu'il avait faites en 1927, il y avait un certain portrait de l'homme d'État. Il est évident qu'en ce portrait de l'homme d'État et de l'homme d'action, c'est de Gaulle qui pense à lui. Et il disait, ne jamais négliger l'importance de l'attitude. Ce prestige ne va pas sans mystère, on révère peu ce que l'on connaît très bien. Et écoutez surtout les mots qui suivent. L'homme d'action ne se conçoit pas sans une forte dose d'égoïsme, d'orgueil, de dureté, et le russe. Là, nous allons reprendre tous ces termes. Importance de l'attitude. Quelqu'un qui était tout près du général m'a raconté comment le général s'est préparé à recevoir ses visiteurs. Il écartait tout un pied de sa table avec deux appareils téléphoniques qui étaient là, et il prenait une certaine attitude. Il s'adressait bien, il allongeait d'un bras sur sa table, dans une attitude de sphinx, de telle sorte que les visiteurs étaient tout de suite rapatriés. Hein. Voilà pour l'importance de l'attitude. Et maintenant, orgueil, ruse, dureté. Orgueil. Il est certain que le général de Gaulle avait une certaine idée de la France, mais qu'il avait peu d'estime pour les Français. Il avait dit des Français sont des vous, et brusquement à Claude Mauriac, qui va sortir une phrase stupéfiante que le petit Claude Mauriac, je l'appelle petit, il avait 15 ans, alors je l'ai connu, il avait un temps sur ses enfin, Claude Mauriac dit dans ses notes, un jour le général me dit à Brûle-Pourpoint, dites-moi, Mauriac, il l'appelait comme ça, connaissez le cochon de Chicago? Alors Claude lève le sourcil, le général dit, bah, quand les cochons de Chicago vont à l'abattoir, ils sont pas contents, hein. Mais je pense qu'on a mis en date de conserve, c'est la même chose pour les Français. C'est-à-dire, nous avons le choix, nous Français, entre veau et cochon, c'est le général avec un certain mépris pour l'ensemble des Français. Orgueil, je vais encore vous donner un détail. Le malheureux Duhamel, qui était secrétaire perpétuel de l'Académie française, va trouver de Gaulle pour lui dire, mon général, vous nous feriez un immense honneur en acceptant d'entrer à l'Académie. Le général lève un sourcil et lui dit, mais mon cher monsieur Duhamel, j'ai jamais entendu dire que ni Napoléon, ni aucun roi ne fait partie de l'Académie française. Alors, Duhamel a compris qu'il avait une gaffe et il va en retrait. À l'égard d'un homme comme Bidault, il a bien été obligé, puisque Bidault était chef du CNR et qu'il ne l'aimait pas, de lui donner des fonctions apparentes. Il l'avait nommé, apparemment, vous allez voir, ministre des Affaires étrangères. Vous savez très bien que les Affaires étrangères ont un chiffre, hein. Les Affaires étrangères communiquent avec les postes diplomatiques qui ont des âges chiffrés. Alors le petit Bidault, le jeune petit Bidault, envoie des télégrammes chiffrés, mais il ne se doute pas qu'il y a un autre chiffre, que le chiffre du général, et que le général, par-dessus sa tête, a dit Bidault, fait sa politique personnelle avec un chiffre qui ignore Bidault. Donc sa politique étrangère, c'est le général seul qui l'a fait. On raconte même, mais je vais le dire en souriant parce que je ne suis pas sûr, on me l'a dit, mais c'est trop beau pour être tout à fait vrai. Le pauvre Bidault se marie, enfin c'est son droit, et il annonce au général que c'est tel jour à telle heure qu'il a le mariage civil. Le général néanmoins met la réunion du Conseil des ministres une demi-heure après, le pauvre Bidault est obligé d'aller très vite pour faire son opération, et il arrive avec quelques retards, de Gaulle consulte son oncle, et lui dit, Bidault est en retard. Ça veut dire, mais je me suis marié, mon général, c'est pas une excuse, attends, général. Enfin, vous voyez les gens, enfin. Maintenant, alors, parlons de la dureté. Alors là, je donne la parole à François Mauriac. François Mauriac, dans un très beau livre de 64, qui s'appelle De Gaulle, et qui était écrit sous la dictature, pas enfin, la monarchie de De Gaulle, un livre dont on a dit qu'il était inconditionnel, ce qui n'est pas vrai. Car si vous lisez de près les remarques archivées de Mauriac, il y a une phrase terrible que je vais vous citer, concernant le 12 septembre 44, au palais de Chaillot, on avait réuni les résistants, ceux qui restaient des résistants, ceux qui s'étaient pas fait tuer pour De Gaulle, et c'était au palais de Chaillot pour recevoir le général. De Gaulle dit, dans ses mémoires, j'espère bien que ce jour-là, le général rendrait hommage aux morts de la résistance. Alors voilà ici la citation, elle est courte, voici par cœur, un froid de banquise nous glaçait, écrit Mauriac, à savoir que le général n'a pas vu un mot, pas un seul mot. Pour ceux qui s'étaient tués sur son nom, et qu'il a simplement accueilli d'une manière normale les hommages fervents qui lui étaient rendus. Je dois vous dire aussi, un peu dépassant ce 46 dont je vais parler, 1946, lorsque De Gaulle décide ce que je crois juste, l'indépendance d'Algérie, dont à laquelle j'étais favorable, il y a beaucoup de Français à attendre que le général prononce un mot à l'égard de ces Français de vieille souche qui étaient là depuis des générations et qui allaient pratiquement tout perdre. Bon, il avait décidé d'avoir un Jérémy Fadifer, mais il était peut-être nécessaire de parler avec un peu de tendresse de ces Français qui étaient algériens. Pas un mot. Donc, extrême dureté. Quant à la ruse, j'ai un rassemblement que ce n'est pas la peine que je vous l'explique. Mais je tiens, maintenant, en terminant, à vous dire que derrière ce personnage composé, hein, ce personnage composé, personnage de dureté, de ruse et d'orgueil, il y avait un certain Charles de Gaulle qu'il faut entrevoir. L'année dernière, en 80, son fils Philippe a publié deux premiers volumes de documents personnels. Il y en a encore deux autres à sortir, ça s'arrête à 40. Il y a certains petits documents qui sont surprenants. Exemple ceci. Tout à l'heure, vous vous rappelez peut-être que je vous ai dit que De Gaulle, le 28 mai 1940, avait fait une opération extrêmement courageuse et il avait refusé des anneaux sur 40 km. Le soir, figurez-vous, le général écrit à sa femme, il y a 19 ans qu'ils sont mariés. Ma chère petite femme chérie, écrit-il à Yvonne Vendroux. En plein combat, je me suis rappelé que c'était mon anniversaire, alors je t'embrasse de tout mon cœur. général ne laissera jamais publier des photographies qui avaient été prises à Londres où on le voit assis sur le bord d'une fenêtre avec sa femme. Et il la regarde avec une douceur, avec une tendresse qui ne te permettait pas de rêver. Général affecte la plus grande dureté, la plus grande indifférence, la froideur, alors que c'est un homme plein de sensibilité. Je vais vous raconter un petit détail que Clavel m'a dit. Clavel, au moment de la traversée du désert, c'est quand Général n'est plus revenu, jusqu'à 58, Clavel tenait compagnie, le Général, qui je ne sais pas, n'observait personne. Et un jour, Clavel me parle au Général d'une difficulté personnelle qu'il a, je crois, un divorce, et il dit, je suis très triste parce que mon petit garçon ne veut plus me voir. Puis, c'est Marie de Lapin, il dit, qu'est-ce que je raconte au Général, une histoire privée, une incidence cosmique. Et voilà que, 5-6 jours après, on frappe chez Clavel, et nous, c'est un petit garçon qui le regarde avec de grands yeux, qui lui dit, papa, nous. Et ce petit garçon, 9 ans, avec une lettre de 4 pages, que le Général de Gaulle avait été fait à lui, pour le réconcilier avec son père. C'est pas la preuve d'une dureté profonde, hein. Quand vous pensez de Gaulle, pensez à ceci. Il avait depuis 1928 à 1948 une fille mongolienne, qui s'appelait Prince. Madame de Gaulle, qui était très avare de confidence, dira, mon mari, aucune fiction, avait toujours passé au moins une heure et demie avec Anne, parce qu'il était seul à la pouvoir la faire un peu sourire. Ce général qui n'a pas beaucoup de talent de pianiste, jouait du piano à sa fille mongolienne, pour essayer de la divertir. Et puis, il y a ce que vous savez, ça a été raconté, c'est pas moi qui vous l'apprends. Les funérailles de cet enfant, 48, hein, que vous n'avez plus au pouvoir, les journalistes sont les gens qui guettent tout, bien sûr. Et ils vont regarder le général et sa femme qui sont devant la tombe de la petite, et ils s'aperçoivent que le général qui a son bras par-dessus a laissé descendre sa main pour attraper la main de sa femme. Et ils disent, bon, à voix basse, ben, tu vois aujourd'hui Anne, elle est comme tout le monde, puis elle est morte. Donc, derrière ce personnage de dureté, il y a un personnage secret. Je dois vous dire, c'est une chose qu'il faut savoir sur le général de Gaulle, c'est à quel point cet homme était indifférent aux questions d'argent. Le plus dur de... Racontez-lui, une phrase que je veux dire, qui me frappe beaucoup. J'aime pas les socialistes parce qu'ils sont pas socialistes. J'aime pas le MRP parce qu'ils sont MRP. Et j'aime pas les partisans parce qu'ils aiment l'argent. Savez-vous, on sait très peu que lorsque le général de Gaulle a été presque 11 ans président de la République, le gouvernement français lui présentera une retraite considérable. De Gaulle refusera sa lente retraite de président de la République, se contenta de sa petite retraite de général de brigade, au point que Mme de Gaulle aura la plus grande difficulté à entretenir comme objet des deux églises. Savez-vous que la tentative du cadeau à l'église, savez-vous qu'à Brazzaville, en 1944, on lui avait remis une pépite d'or qui représentait vaguement la forme de la faute. Il a refusé de la toucher. Il a dit tout de suite, ça a obligé. Tous les présidents de la République française ne sont pas ici noblesse. De Gaulle est un homme irréprochable. Je ne pense pas que c'est un homme chrétien. Il allait à la messe, il communiait. Mais je n'ai rien trouvé qui indiqua une pensée métaphysique dans ses œuvres, que je porte un lieu près. Je vois qu'il parle à un moment de l'héroïsme du chien, enfin, le culte divin du héros. Bah, c'est le chien, ça, c'est pas chrétien. J'ai une autre phrase, il dit, certes, la perfection de l'évangéliste ne conduit pas à l'empire. Ben, il préférait l'empire à la perfection évangélique. Et ce qui me frappe énormément, c'est de très belles pages de mémoire où il parle de son dernier entretien avec Staline. Staline l'a accompagné sur la porte du Kremlin, il voit bien de Gaulle est déçu. Et Staline va prononcer une phrase qui va entrer profondément dans le cœur de Gaulle, tellement ça correspond à sa pensée. Staline lui dit, vous savez, de Gaulle, après tout, hein, dans les affaires humaines, c'est toujours la mort qui gagne. Ben, de Gaulle est un pessimiste. Staline, qui a une certaine idée de la France, qui veut faire de sa vie une grande vie, personnage subsérien, c'est pour ça que j'ai une autre autrefois, il aimait tellement jouer la comédie. Il a joué la comédie de sa vie, une grande comédie. De quelqu'un qui veut à toute autre chose que la racine personnelle, qui laissera son nom tatoué sur l'histoire, une grande destinée. J'ai essayé, voyez-vous, j'ai essayé, en 3 minutes, de dessiner très vaguement la personnalité de Gaulle, lorsque dans 20 ans, il y a longtemps que j'aurais disparu, quelqu'un plus renseigné que moi, vous présentera un portrait plus complet de Gaulle. Et ce que je sais avec une absolue certitude, c'est que qui que ce soit qui parlera plus tard de Gaulle ne pourra pas oublier, quoi donc, ce qu'il a fait en juin 40, à savoir l'acte déterminant d'un homme qui s'est jeté à travers le destin et qui l'a obligé à changer de route.